ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on est toujours dans la série de cours d'explication des six fondements de Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Sheikh Ubayd al-Jabiri. Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. On est arrivé à l'asl al-rabi', le quatrième fondement. Et Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, qui est l'auteur du livre, il dit: Bayanu al-ilmi wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين العام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكر ذلك وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Donc est-ce que l'auteur du livre qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous dit le quatrième fondement? Après, donc les trois premiers fondements qu'on avait vus, des six fondements, on rentre aujourd'hui, inshallah, dans le quatrième fondement. La mise en évidence de la science et des savants, de la jurisprudence et des jurisconsultes, du fiqh et des fuqaha, et la mise en évidence de ceux qui leur ressemblent mais ne font pas partie d'eux. Et Allah a mis, subhanahu wa ta'ala, en évidence ce fondement au début de sourate al-Baqarah. Dans sa parole, dont la traduction du sens est: Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Jusqu'à la traduction de sa parole, avant la citation d'Ibrahim alayhi salam, Ô enfants d'Israël, jusqu'à la fin du verset. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il continue en disant: Ceci est encore plus clarifié par ce qui a été évoqué dans la sunna, de manière claire, claire même pour l'idiot parmi les gens de la masse. Littéralement, l'ami, c'est quelqu'un qui est aveugle, qui ne discerne pas. Puis cela est devenu la plus étrange des choses. Et la science et la compréhension de la religion sont devenues les innovations et les égarements. Et ce qu'ils ont de mieux, c'est de cacher la vérité par le faux. Et la science qu'Allah a rendue obligatoire aux gens n'est proférée que par un zindiq ou un fou. Et le savant jurisconsulte est devenu celui qui réprouve cela et le déteste et écrit à ce sujet en guise de mise en garde. Maintenant, dans l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala sur ce fondement-là, il dit: إن هذا الأصل يحتوي على عدة مسائل وحتى يسهل فهمها سنتناولها إن شاء الله مسألة مسألة. المسألة الأولى العلم والعلماء، ويتطلب البحث في هذه المسألة عرض أمرين: أحدهما بيان العلم الذي ينفع الله به صاحبه في العاجل والآجل، والآخر من هم العلماء الذين نوه الله بذكرهم ورفع قدرهم وبين فضلهم في كتابه. وخير ما يبين به أو يبين به هذان الأمران نصوص الكتاب والسنة. فالعلم مراد هنا، ثم يعني إلى آخر كلام الشيخ. On traduit déjà cette partie-là. Cheikh Ubayd al-Jabiri nous explique donc ce quatrième fondement en disant: ce fondement comprend plusieurs points. Afin de faciliter la compréhension de ces points, nous allons les traiter un par un, inshallah. Et ceci fait partie du bon enseignement de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, wa jazahullahu khair al-jaza. Il dit, la science et les savants. Donc ça c'est le premier point, c'est quoi? La science et les savants. Et afin de traiter ce sujet, nous devons exposer deux points. On va déjà reporter le premier. Il dit le premier, la mise en évidence de la science par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donne des bénéfices. Bénéficie à celui qui la détient dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis le deuxième point, il commence par une question sur Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Qui sont les savants dont Allah, dont Allah a loué les mérites en les citant et en élevant leur statut et en mettant leur préséance en évidence dans son livre, subhanahu wa ta'ala. Comme on avait déjà dit dans de nombreux cours, on avait dit qu'il fait partie du bon enseignement de l'enseignant, justement, c'est de poser des questions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec les compagnons. Et parmi les fawa et les bénéfices de ça, c'est quoi? C'est que la personne, elle, elle retient mieux, mais comment elle? Elle fait attention à ce qui va être dit. On attire l'attention de celui à qui on pose la question pour qu'il soit prêt à écouter la réponse. Cheikh, il dit donc, je répète le deuxième point en entier en arabe, comme ça le traduire en entier en français sera plus facile, inshallah. والآخر من هم العلماء الذين نوه الله بذكرهم ورفع قدرهم وبين فضلهم في كتابه وخير ما يبين به هذان الأمران نصوص الكتاب والسنة فالعلم المراد هنا علم الشريعة والفقه علم الشريعة والفقه في دين الله وأساس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهذا هو أساس الدين الذي جعله الله نورا للناس وسبيلا للهداية في آخر سورة الفاتحة تجدون قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم وفسر الضالون بأنهم النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال والعالم من هو؟ العالم هو من يفقه الناس في دين الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يبين للناس دينهم ويبصرهم من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح وأما من يأتي الناس بالحكايات أو والقصص فهذا ليس بعالم العالم هو الذي يقول للناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو العالم الحق وهو العالم الرباني يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها يربي الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومكانة العلم والعلماء قد تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن مكانة العلم والعلماء ومن يطلب العلم مكانا عظيمة مكانة عظيمة ويناسب هنا أن نذكر بعض البشائر لمن جلس يطلب علما من دين الله منها قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. On va déjà s'arrêter ici. Cheikh, il dit donc dans le deuxième point, qui sont les savants dont Allah a loué les mérites en les citant et en élevant leur statut et en mettant leur préscience en évidence dans son livre. La meilleure manière de clarifier ces deux points est de rapporter les textes du Coran et de la Sunna. Ce qui est entendu ici par la science, c'est quoi? C'est la science de la législation islamique, de la religion, et de la compréhension de la religion d'Allah. Et la base de cela, c'est l'unicité d'Allah, al-Tawhid, dans sa souveraineté, al-Rububiyyah, dans sa divinité, al-Uluhiyyah, et dans ses noms et attributs, fi asma'ihi wa sifatihi. Et cela est la base de la religion dont Allah a fait une lumière pour les gens et une voie vers la guidance. À la fin de Sourate al-Fatiha, nous trouvons la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Et c'est la suite à quel verset? Guide-nous, ou dans la traduction du sens plutôt, vas-y. Hein? Guide-nous. Vas-y, je ne sais pas, tu avais commencé. Vas-y. D'abord avant ça. Ok. Voilà. En cours ta colère, on y déségaré. Voilà. C'est pour resituer le contexte, d'accord? Dans l'exégèse du Coran, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, bien cela est expliqué comme étant al-Yahoud, car ils n'ont pas mis en pratique la science qu'ils détenaient et les égarés, cela a été expliqué, comme étant al-Nasara, car ils adorent Allah sans science et avec égarement. Et vous connaissez sûrement une certaine parole des savants qui dit que toute personne de notre communauté des musulmans qui a la science et qui ne l'applique pas, il aura ressemblé en cela qui ? Aux juifs, hein, à l'Yahoud. Et toute personne qui, de notre communauté, des musulmans, qui adore Allah Azzawajal, qui pratique, mais sans science, il aura certes ressemblé au Nasara. D'accord ? Le savant, quel est-il ? Cheikh, il dit, le savant est celui qui fait comprendre aux gens de la religion d'Allah par le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui clarifie aux gens la religion à partir du Coran et du hadith du messager d'Allah. On parle de qui ici? Du savant. Il clarifie aux gens la religion en se basant sur quoi? Sur le Coran et la sunna. Vous connaissez tous la parole d'Ibn Qayyim, incha'Allah, dans Nouniya, qui dit quoi? Al-ilmu qala Allah wa qala al-rasul wa qala al-sahabatu wa hum ul-irfani. Ila akhiri ma qalahu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire, il a dit quoi? La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont dit. Donc, Cheikh, il dit quoi? Il dit, le savant, il est celui qui clarifie aux gens la religion à partir du Coran, du hadith et du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, en conformité avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Tandis que celui qui rapporte des histoires et des récits, celui-là n'est pas un savant. Le savant, c'est celui qui dit aux gens, Allah a dit, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui-là donc est le vrai savant. Ar-Rabbani, qui apprend aux gens les petites choses avant les grandes. Et vous connaissez certainement cette parole des savants qui explique le verset du Coran qui dit walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Certains salaf ils ont expliqué ça comme étant al-alim rabbani ay alladhi yuallimu an-nas sighar al-masail qabla kibariha. D'accord? C'est-à-dire que l'alim rabbani, c'est celui qui apprend, qui enseigne aux gens les petites choses avant les grandes. On avait déjà parlé dans les tout premiers cours qu'on avait fait ici à la mosquée, il y a plus de 2 ans déjà, je pense maintenant, qu'on avait fait l'introduction sur l'importance de la science de ces gens et la présence de la science et de ces gens. Qu'on avait parlé du livre de Sheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, auquel je fais référence souvent, qui est une explication d'un poème de l'Hafid al-Hakami dans Usul Fiqh. Et au début, il a rapporté Sheikh Zayd, qui est toujours vivant, qui est un contemporain et qui vit maintenant à Samita, en Arabie Saoudite, dans le sud de l'Arabie Saoudite, et qui était dans la même région que l'imam Naham, al-Mufti, rahimahullah, Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc, Cheikh Zayd, qui est parmi les savants de cette époque, il dit dans son explication de ce poème de Al-Hafid al-Hakami, il parle de l'importance de la science. Il rapporte des versets du Coran, puis des hadiths du prophète, as-salam, et puis des paroles des compagnons, d'abord par les compagnons, d'accord, les salaf, d'abord par les compagnons, puis les imams de la communauté. Et on avait pris, dans la traduction que j'avais fait au tout début, quand on avait fait le livre de Cheikh Rabi, on avait pris des fois de là-dedans et j'avais cité cette parole-là. D'accord? Donc, il éduque Yurabbi, Rabbani Yurabbi. Il éduque Yurabbi les gens comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec ses compagnons, radiallahu anhum, ardahum. Le statut, le degré de la science et des savants ont été rapportés dans de nombreux textes du Coran et des hadiths prophétiques. Et je vous demande d'être concentré, Inch'Allah. Le degré est immense du savant, de la science et de celui qui cherche à l'acquérir. Et je pense qu'il convient qu'on rapporte ici des bonnes nouvelles, des annonces faites à celui qui s'assoit pour apprendre une science qui fait partie de la religion d'Allah. C'est pour ça que je dis, soyez concentrés. Inch'Allah, que peut-être qu'on fasse partie de ces gens-là. Parmi ces annonces, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend une voie pour acquérir une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. On va traduire ce hadith complètement un peu plus loin dans le cours aujourd'hui, Inch'Allah. Et de toute façon, pour les frères et les sœurs qui veulent un charh complet, en tout cas plus complet, eh bien, qu'ils reviennent à notre site spfbirmingham.com. On avait fait dans la daura francophone du mois de mai passé 5 cours, en tout cas moi j'avais fait 5 cours et Hassan Abou Asmal avait fait 5 cours et mon premier cours c'était celui-là. On avait fait Marhaban bi Talib al-Ilm et on avait parlé de quoi? Du hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, qui est celui-là, Hadith Abi Darda, radiallahu anhu arda.
ثانيا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالحديث قد تضمن ثلاث خصال يستفيد منها المرء بعد مماته كما استفاد منها في حياته فإنه يستفيد ثوابا بعد مماته فما الخصال الثلاث؟ الصدقة الجارية كبناء المساجد حفر الآبار وبناء مدارس العلم الذي ينتفع به علم الدين فإذا تعلمت دين الله فإذا تعلمت دين الله ما أمكنك وعلمت زوجتك وأولادك فإن لك أجر هؤلاء ما تناسلت الأجيال ولو كان مئات السنين والولد الصالح الذي يدعو له وبعد هذه البشائر نستعرض بعض آيات الكتاب وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان العلم وفضله وفضل العلماء.
Donc Cheikh Obeid, hafidahullah ta'ala, il nous dit deuxièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent sauf à l'exception d'une aumône qu'on appelait jariya, ou une science bénéfique, ou un fils vertueux qui fait des invocations pour lui. Ce hadith contient trois caractéristiques dont l'individu en tire profit après sa mort.
Et on avait déjà fait un cours sur la mort. Il convient de se rappeler qu'on va tous mourir et qu'on va tous retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que donc il convient de savoir qu'est-ce qui est à faire pour qu'on en tire des bénéfices même après notre mort.
Donc comme il en a tiré profit dans sa vie, donc l'individu en tire profit après sa mort comme il en a tiré profit dans sa vie, car il tire le profit de la récompense après sa mort. Quelles sont ces caractéristiques? Quelles sont ces trois caractéristiques? Bien la sadaqa jariya, comme la construction d'une mosquée, le creusement d'un puits, la construction d'écoles de sciences bénéfiques. D'accord? Alors comment on peut m'expliquer que ici, que même si tu es mort, eh bien, tu prends toujours la récompense, avec les conditions des ulama bien sûr, ils sont par de manière générale, mais comment est-ce qu'on voit dans ces genres de sadaqa, dans ce genre de monde, qu'on prend toujours l'action, la récompense?
Si quelqu'un lève la main, parce qu'il y a plusieurs. Vas-y. Parce que les gens en profitent. Quand tu construis un puits, toi tu es mort, mais les gens continuent à en profiter, donc tu continues à prendre la récompense. La mosquée, c'est clair aussi. L'école des sciences bénéfiques, les écoles d'Al-Sunna al-Jama'a, eh bien, tu en tires toujours le profit, Inch'Allah.
Cheikh, il continue en disant, apprends la religion, et si tu apprends la religion d'Allah, en fonction de tes possibilités, et que tu l'enseignes à ton épouse et à tes enfants, tu auras leur récompense également, génération après génération.
Et ça me rappelle une parole que le cheikh nous a visité il y a quelques jours. Il a dit, c'est une chose que vous n'avez pas entendu, mais je ne parle pas de tarbiyah, je parle de ibadat al-tarbiyah. Parce que c'est une ibadat, tarbiyah al-awlad, on oublie ça. Et l'ibadat al-dawabit. D'accord? Et c'est très important, c'est là qu'on doit investir, dans les futures générations. Souvent on va à droite à gauche, on oublie notre propre maison, on oublie notre propre demeure, on s'oublie soi-même et on oublie nos épouses, on oublie nos enfants. Qu'Allah nous facilite à tous, qu'Allah nous donne tawfiq à ce qu'on soit parmi les gens qui s'occupent d'abord des priorités avant des choses plus obligatoires avant les choses moins obligatoires. Allah Azza wa Jalla il a dit, et le cheikh il a cité ce verset du Coran dans surat Tahrim, il a dit ya ayyuhalladhina amanu قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قو أنفسكم وأهلكم نارا. Le verset est clair. J'avais déjà dit que quand j'avais visité des frères dans le sud marocain qui faisait talab l'ilm là-bas, dans Dar al-Hadith, il y a très longtemps, en 2003 ou en 2002, bien, le frère, à la fin, quand j'ai dit, oui, est-ce que vous pouvez nous enregistrer quelque chose, Inch'Allah, pour que quand je ramène en Europe, ce soit Nasiha pour les frères. Bien, un des frères, il a cité ce verset du Coran. Il a dit ça aux frères d'Europe. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. D'accord? Donc, ici, comme il a dit, Cheikh, il a dit, apprends la religion, et si tu apprends la religion d'Allah en fonction de tes possibilités, et que tu l'enseignes à ton épouse et à tes enfants, tu auras leur récompense également, génération après génération. Et c'est même si cela dure des siècles. Et des fois, des choses très simples. On a assisté à un cours, on rentre à la maison, on en parle à notre épouse. On a parlé à nos enfants. On leur apprend l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On leur apprend l'amour du prophète alayhi salam. On leur apprend l'amour des sahaba. On leur apprend sidq. La véracité dans les paroles et les actions. On leur apprend toutes ces choses-là. On leur apprend à lire la langue arabe. On leur apprend à lire le Coran. Hein? On leur apprend un hadith, une faïda. Et le fils vertueux, donc c'est la troisième caractéristique dans ce hadith, et le fils vertueux qui invoque Allah pour lui. Après, regardez déjà encore une fois, le fils vertueux, ben pour avoir un fils vertueux, il faut l'éduquer quelque part aussi. D'accord ? Et le fils vertueux qui invoque Allah pour lui, après ces bonnes annonces, nous citons des textes, des versets coraniques et des traditions prophétiques, des hadiths, de nos prophètes, alayhi salatu wasalam, qui mettent en évidence la science et sa préscience, ainsi que la préscience des savants. Cheikh, il continue donc en disant... فالآية الأولى من سورة آل عمران يقول الحق جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فوجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلم وأهله أن الله عز وجل جعل أهل العلم شهداء على وحدانيته فالشهود على وحدانيته ثلاثة في هذه الآية الرب جل جلاله والملائكة الكرام وأولو العلم فقد قرن الله جل وعلا شهادة العلماء على وحدانيته بشهادته وشهادة ملائكته لأن العالم هو الذي يعرف قدر الله حق قدره ويعرف كيف يعظم الله حق تعظيمه وفي هذا حث لك أيها المسلم على التزود من العلم وسواء كنت صغيرا أو كبيرا. Donc Cheikh il commence donc par le premier verset qui indique la préscience de la science et des gens de science. Et il dit, Hafidah Allah Ta'ala, le premier verset est tiré de Surat Ali Imran. La traduction du sens de ce verset est Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat Ali Imran, verset 18. Ce verset est utilisé comme preuve de la préscience de la science et de ces gens, car Allah a fait des doués de science des témoins de son unicité. Ces témoins de son unicité sont trois dans ce verset. Le Seigneur, Rabb subhanahu wa ta'ala, les nobles anges et les doués de science. Allah a groupé dans l'attestation, ou plutôt a groupé l'attestation des savants à son attestation, subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à celle des anges. Sur son unicité, subhanahu wa ta'ala. Car le savant est celui qui connaît et sait comment vénérer Allah, ta'zimullah. Il y a une très belle khutba de Cheikh Abdelrazak al-Badr sur son site qui s'appelle ta'zimullah. Ta'zimullah. Est-ce que nous, hal nu'azzimullah haqqa ta'zimihi? Ou haqqa ta'zim? Hein? Comment vénérer Allah, subhanahu wa ta'ala, correctement, à sa juste valeur? Il y a en cela une incitation pour toi, ô musulman, à ce que tu augmentes ta science, est-ce que tu sois petit, est-ce que tu sois petit ou grand. Et quand Allah nous préserve, des fois, on peut voir certains frères, certaines sœurs, ils ne sont pas intéressés par la science. Ils ne sont pas intéressés par les assises des sciences. Wal'adhu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Le prophète, a dit, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Les ulama disent, mafhoum al-mukhalafa, c'est que man lam yufaqihu Allah fi din lam yurid Allah bihi khayra. Hein? Wa'adu billah, la mas'ala li grave ya ikhwan. Hein? Comme ici, on est là où lillah alhamd à Birmingham dans cette mosquée, ni'ma mosquée salafia, hein? On peut parler la sunna, on est libre, alhamdoulillah, hein? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont en dehors de Birmingham, hein, qui sont en dehors même de l'Angleterre et qui voudraient, qui assistent à ces cours via Paltalk, etc., hein, ou qui les téléchargent notre site, et qui voudraient assister à ce genre de cours ici. Et il y a des frères ici, et des sœurs, c'est différent, parce que, hein, on connaît ce sont des sœurs, d'accord, mais au moins les frères, hein, qui sont ici, et qui n'assistent jamais au cours, ou qui n'ont jamais assisté au cours, ou presque jamais, hein. Et que ce soit les cours, c'est pas, moi j'appelle pas assister à mes cours à moi. Il y a d'autres cours que les miens. Il y a les cours d'Abu Talha, il y a les cours d'Abu Hakim, il y a les cours d'Abu Khadija, il y a les cours, hein, il y a les cours des Majd Cheikh Obeid le dimanche, etc. Il y a les cours d'arabe de nos frères, hein. Il y a les cours de Coran, etc. نسأل الله العافية نسأل الله التوفيق. يعني quelle situation dans laquelle un musulman en plus un salafi va se retrouver qui donne aucune importance à la science. Aucune importance à la science. On ne dit pas que les frères ne font pas chez eux, mais on connaît la situation des gens, on connaît. Hein? On connaît la situation des gens, on connaît leur niveau. Hein? Et souvent, subhanallah, ça se reproduit même dans la pratique de la religion. Parce que les deux sont liés. Les ulama, vous savez comment ils appellent ça? وَلِعَدُوا بِاللَّهِ حِرْمَانُ الْعِلْمِ. Le mot en arabe, il est fort. حِرْمَانُ الْعِلْمِ. Et parmi les plus grands asbabs de حِرْمَانُ الْعِلْمِ, c'est quoi? Al-Ma'asi. Al-Ma'asi. Un imam, il a dit à son élève, si je me souviens bien, c'est Malik qui l'a dit à Shafi'i ou Shafi'i qui l'a dit à Malik? Non, c'est pas celle-là, c'est pas. C'est. Peut-être qu'il parle de. Chakotou les waqi'in soua hifdi, fa ashadani ila an atruk al ma'asi, fa inna. L'ilm Allahi nourun lay utahu aasi, c'est celle-là. On peut citer celui-là. On peut citer celui-là. Fa inna l'ilm. Fa inna ilm Allahi. Ou fa inna l'ilm. Nourullahi. لا يهدى أو لا يعطى هو عاص. C'est-à-dire que la religion, la science, hein, c'est une lumière qui n'est pas donnée aux désobéissants. Mais je pense à un autre athar que aidez-moi parce que je suis fatigué là, franchement. C'est qui était l'élève de l'autre, Shafi'i ou Malik? Shafi'i était l'élève de Malik, c'est sûr. À la kulli hal. Il a dit à son élève, il lui a dit, je vois sur ton visage une lumière. Ne l'éteins pas avec les désobéissances. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez le fahm, ya ikhwan, regardez le fahm. Hein? Et quand on voit les hadiths et les versets du Coran qui incitent à la science, chaque salafi, chaque frère et chaque sœur, elle devrait sentir cette jalousie. Hein? Cette jalousie dans le sens que tu ne devrais pas accepter pour toi-même de te retrouver dans cette situation d'ignorance. Parce qu'on est tous dans la situation d'ignorance. Hein? Comme les ulama disent, l'asl c'est le jahl. Et c'est pour ça que le niya dans talab l'ilm, dans l'acquisition de la science, la demande de la science, c'est quoi? An tarfa' al-jahl an nafsik wa an ghayrik, comme a dit l'imam Ahmed. Rahimahullah. C'est quoi? C'est que tu te retires, tu te dégages de cet état d'ignorance petit à petit en acquérant la science. D'accord? Donc toi, on est dans cet état d'ignorance à la base. Mais est-ce qu'on agrée? Est-ce qu'on veut ça pour soi-même? Est-ce qu'on est satisfait de cela? Au point comme ça de ne pas donner d'importance à la science. Donc on a cité le verset de sourate Ali Imran et Cheikh il cite donc le deuxième verset maintenant qui indique la préscience de la science et des gens de science. Il dit l'ayat al-thaniya min sourate Az-Zumar yaqul Allah azza wa jalla أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورة الزمر. ذكر سبحانه وتعالى في الآية عدة أمور من الحث على قيام الليل وقيام الليل في الثلث الأخير منه أفضل حين ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويدعو عباده هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه سؤاله حتى ينفجر الفجر. والثاني أهمية الجمع بين الخوف والرجاء. لماذا؟ لأن الخوف يردع عن محارم الله ومغاضبه والرجاء يطمع في رحمة الله. هذا هو أفضل سبيل. فالاعتماد على الخوف وحده هلاك وأخذ الرجاء وحده أيضا هلاك فسبيل النجاة الجمع بين الخوف والرجاء. Qu'est-ce que le Cheikh nous dit ici? Il nous cite le deuxième verset comme preuve. Il dit, c'est un verset de sourate Zumar. La traduction du sens est: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, se prosterne et reste debout, prenant garde à l'au-delà, yahbar, regardez ce beau mot en arabe, yahbarul akhirata, prenant garde à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? seuls les doués d'intelligence se rappellent. Surat Az-Zumar, verset 9. Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, a cité plusieurs choses. Parmi elles, l'incitation à veiller en prière la nuit. Et le meilleur des moments pour veiller en prière la nuit, c'est le dernier tiers. Quand Allah, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, descend au ciel terrestre et appelle ses serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui cherche à se repentir? Que je lui accorde se repentir. Y a-t-il quelqu'un qui demande le pardon? Que je lui pardonne. Y a-t-il quelqu'un qui demande que je lui donne ce qu'il demande? Et c'est jusqu'à ce qu'il arrive le temps du Fajr, jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et ça me rappelle une belle parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala. Il dit une super parole, il dit, regardez, c'est des mawasim azima, c'est des rendez-vous sublimes, des événements sublimes. Il a dit qu'on ne soit pas à ce moment-là comme le cadavre, wal'adhu billah. C'est notre situation, wal'adhu billah, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous réforme nos situations. C'est ça la vérité, comme des cadavres. Quelle jutha. Allah subhanahu wa ta'ala est descendu au ciel terrestre au dernier tiers de la nuit disant subhanahu wa ta'ala rabbus samawati rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Il descend et il dit subhanahu wa ta'ala hal min ta'ibin fa atubu alayhi hal min mustaghfirin fa aghfir lahu hal min sa'ilin fa a'tiyah. Et nous qu'est-ce qu'on a comme des cadavres, wa'a'udhu billah. صلى الله عليه التوفيق لقيام الليل في آخر ثلث الليل. La deuxième chose tirée de ce verset, l'importance de regrouper la peur et l'espérance. Et pourquoi cela? Mais la réponse à cette question, c'est car la peur fait dissuader de commettre des choses qu'Allah a interdites et fait fuir de ce qui cause sa colère. Alors que l'espérance fait espérer, désirer la miséricorde d'Allah. Ceci est donc la meilleure des voies. Se baser sur la peur uniquement amène à la perdition. Et espérer uniquement conduit également à la perte. Les ulama, qu'est-ce qu'ils utilisent comme image pour les frères qui connaissent peut-être? L'oiseau, qu'est-ce qu'ils disent? Les ulama, que une aile c'est l'espérance et une aile c'est la peur. S'il n'y a pas d'équilibre, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau il vole droit. C'est pas possible. Il faut que les deux soient équilibrés. Il y a un tafsil du ulama, à certains moments tu dois faire plus l'espérance, à certains moments plus le khawf. On sait tout ça, ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Mais là, ce qu'on veut retenir du cours ici, c'est qu'il faut avoir les deux, l'espérance et le khawf. D'accord? Alors, le khawf ou le raja. Qu'est-ce que le ulama dit sur celui qui adore Allah avec l'espérance uniquement? Que c'est un? Eh ouais, les frères. Sûr? Ils disent trois, ils disent, celui qui adore Allah avec le khawf uniquement, la peur uniquement, c'est un haruri, un khariji. Celui qui adore Allah uniquement avec rahma, c'est un murji. Et celui qui adore l'espérance, pas rahma, pardon, l'espérance, raja en arabe. Et celui qui adore Allah azza wa jal uniquement avec, tu parles toi, le mahabba. C'est un soufi. Avec le mouahid, le mu'min, il regroupe les trois. D'accord? La voie du salut, c'est de grouper l'espérance et la peur. La troisième chose tirée de ce verset, c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre étude ici. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Le savant et l'ignorant ne sont pas égaux. Ils t'incombent. Regardez quand l'Imam nous donne des nasa'ih continuellement. Ils t'incombent alors, ô musulmans, que tu apprennes la religion d'Allah. Et le minimum est que tu saches comment t'acquitter de l'adoration de ton Seigneur correctement. C'est ça qui veut dire le shirk ici. Ceci était ce qui concerne les versets du Coran et nous en avons cité qu'une petite partie, une infime partie, tandis que ce qui a été rapporté de notre prophète comme ahadith sur l'incitation à la science et la mise en évidence de sa préscience et la préscience de ces gens arrive au degré de tawatur al-ma'nawi. D'accord? Nous en citerons quelques-uns. Et puis il va commencer à citer certains hadiths. Hafidhahullah ta'ala. الأمر الثالث هو شاهد حديثنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون لا يستوي العالم والجاهل فعليك أيها المسلم أن تتزود من الفقه في دين الله وأقل شيء أن تعرف كيف تؤدي عبادة ربك هذا بالنسبة للآيات القرآنية وهي غيظ من فيض قليل من كثير وأما من جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الأحاديث في الحث على العلم وبيان فضله وفضل أهله فهي متواترة تواترا معنويا ونحن نذكر بعضها منها قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا ما أعظمها من بشارة من دعا إلى هدى من قول أو فعل علم الناس الهدى فله أجره ومثل أجور من تبعه وأجور أولئك التابعين لا تنقص وعلى العكس من هذا التحذير ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل فالذي يبصر الناس بدين الله ويفقهم فيه ويعلمهم إياه حتى الرجل في أهل بيته له هذه البشارة وهذا الأجر وكذلك من يعلم الناس الضلالة والانحراف عن دين الله لأنه وسيلة من وسائل الانحراف فهذا عليه وزره وأوزار مثل أوزارهم هذا عدل من الله سبحانه وتعالى فأهل الإحسان جزاؤهم الحسنى عند الله وأهل الإساءة جزاؤهم السوء عند الله سبحانه وتعالى Donc qu'est-ce que Cheikh nous dit حفظه الله تعالى Il cite des preuves venant de la sunna Parmi eux, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à une guidance aura la récompense identique à ceux qui le suivent, c'est-à-dire qui répondent à son appel, à cet appel, jusqu'au jour du jugement dernier. Et ceci quand sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Quelle immense et belle annonce faite à celui qui appelle à une guidance, que ce soit une parole ou une action. Mais ça, c'est pour les cœurs éveillés. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a une super parole dans le tafsir de Sourate Qaf. Dans le Fawaid, il a dit, عند قول الله عز وجل, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وألقى السمع وهو شهيد, أي غير غافل, il n'est pas insouciant, il est attentif, concentré. ألقى السمع, il écoute. إلى قلب قابل للتأثير. C'est le مكان قابل للتأثير. المؤثر, c'est الذكرى. C'est-à-dire ce qui influence, c'est Dikra, elle met un kabil et ta'tir, l'endroit qui accepte, qui est influencé par le rappel, c'est le cœur. Il a donc appris que l'immense et belle annonce faite à celui qui appelle à une guidance, que ce soit une parole ou une action. Il a appris, il a enseigné aux gens la guidance, il aura alors sa récompense et la récompense identique à ceux qui le suivent. Et la récompense de ceux qui le suivent ne sera diminuée en rien. Et en opposition à cela, et ça c'est un tahdir contre tous les gens qui appellent l'égarement, par exemple Al-Hizbiyoun, Al-Bid'a, Al-Ahwa et autres. Et en opposition à cela, il y a la mise en garde. Et celui qui appelle à un égarement aura le péché identique au péché de ceux qui le suivent sans que cela ne diminue en rien leur péché. La récompense est donc du type du genre de l'action. Al-jaza ou medjin, c'est l'amal. C'est reconnu chez les ulama. Il y a beaucoup de hadiths sur cette. Beaucoup de preuves sur cette règle. Par exemple, un verset du Coran. Wayamkurullah, wallah khairul makirin. Un autre dalil, hadith qu'on va en parler. Man salaka tariqan yaltamissu bihi ilman. Sahal Allahu lahu tariqan ila al-jannah. C'est-à-dire que tu prends une voie pour la science, Allah te facilite une voie vers le paradis. La récompense est du type de l'action. C'est ce que dit Cheikh Abdelmouhsin al-Abbad dans son explication de ce hadith-là, dans Sharh Sunan Abi Daoud, chapitre L'incitation à la science. La récompense est donc du type du genre de l'action. Celui qui clarifie, qui rend les gens clairvoyants dans la religion d'Allah, elle leur apprend, elle leur fait comprendre. Et ce même l'homme qui apprend à sa famille obtiendra cette bonne nouvelle et cette récompense. De même, celui qui apprend aux gens l'égarement et la déviance par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est l'un des moyens de la déviance, celui-là aura alors son péché et les péchés identiques de ceux qui l'auront suivi. Ceci fait partie de la justice d'Allah. Les gens du bien, de l'ihsan, recevront comme récompense al-husna auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens du mal recevront comme récompense le mal auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième hadith. Hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه علامة من علامات الساعة يا عباد الله. كيف يقبض العلم؟ بموت أهل العلم، لا ينتزعه من صدور الناس بل يقبضه بموت أهله. إذن أليس في هذا حث للمسلمين أن يستكثروا من علم الشريعة؟ بلى، إنه لكذلك. فاستكثروا من علم الشريعة، تزودوا من فقه دين الله، فإذا قبض العلماء ماذا يكون؟ ينتشر الجهل. إذا مات العلماء الأئمة الذين يفقهون الناس في دين الله، ينتشر الجهال أصحاب القصص والحكايات، وهؤلاء يضلون الناس، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. وفي الحديث أيضا إشارة إلى توقير العلماء. Qu'est-ce que Cheikh Obaid al-Jabiri nous dit ici, hafidhahullah ta'ala? Pour les frères qui sont un peu endormis, yani qui changent de place, comme dit Cheikh Salih Ali Cheikh, on est tous fatigués, mais il faut faire un peu d'effort, inshallah. Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne prend pas la science en apprenant des gens, mais il l'apprend en prenant les savants jusqu'à ce que, lorsqu'il n'y aura plus de savants, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront questionnés et répondront sans science. Ils s'égareront alors et égareront les gens. Ceci est l'un des signes de la fin du temps. Ô serviteur d'Allah, comment donc sera saisie, prise la science? Par la mort des savants. La science ne sera pas prise par la prise de la poitrine, de la science dans la poitrine des gens, mais Allah la prendra en faisant mourir les gens de science. N'y a-t-il pas en cela une incitation pour les musulmans à ce qu'ils augmentent leur connaissance de la législation islamique, de la religion? Certes oui, là, augmentez donc votre science de la religion et augmentez votre compréhension de la religion, car si les savants disparaissent, qu'arrivera-t-il? L'ignorance se répand. Si les savants, les imams qui font comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens meurent, les ignorants, ceux qui se racontent, qui racontent à la fois des histoires, al-qisas, ceux qui basent, comme le cheikh nous a invité il y a quelques jours, il a expliqué c'était quoi al-qissas, on les appelle al-qissas. C'est qui al-qissas? Il a dit, c'est ceux qui basent le rappel sur des histoires, sans vérifier ce qui est authentique ou faible, et n'éclaircissent pas aux gens le Coran et la Sunna. D'accord? Ils se répandent ces gens-là. Ceux-là égarent les gens, ils rendent l'illicite. Afwan, ils rendent licite ce qu'Allah a rendu illicite. Ils rendent illicite ce qu'Allah a rendu licite. Ils rendent le vrai comme faux, étant faux, et le faux comme étant la vérité. Il y a dans ce hadith également une indication sur le fait de respecter les savants. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن وجود العلماء خير وذلك أنه ما دام العلماء موجودين فالناس في عافية وأمن وطمأنينة وفي راحة وأمن على دينهم لكن إذا ذهب العلماء جاءت البلايا من أجهل الناس حتى وإن كان معه شهادات عالية إذا لم يكن متسلحا بعلم الشريعة فإنه يضل الناس يفسد من حيث يريد الإصلاح وعلى هذا فلا يسوغ للمسلمين أن يحقروا علماءهم أو يجهلوهم أو يغمزوهم بالأوصاف البذيئة مثل هؤلاء علماء الشرع لا غير وهؤلاء لا يعرفون واقع الناس وهؤلاء علماء حيض ونفاس سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العلماء ورثة الأنبياء علماء الشرع ورثة الأنبياء لا علماء الطب ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات ولا الهندسة ولا الفلسفة ورثة الأنبياء الذين حملوا ميراث النبوة هم علماء الشريعة عالم الشريعة هو الذي يقول للناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعمد إلى الحكايات وقصاصات الصحف والمجلات بحجة أنه فقيه للواقع أو لواقع الأمة، وعليه أن يبصر الناس ذلك، وهؤلاء هم فقهاء الواقع زعموا. Donc qu'est-ce que le Cheikh Obedi nous dit dans ce hadith ici ? Il continue en disant « Hafidahullah Ta'ala, Allah ne fait pas disparaître la science en la saisissant, mais en faisant mourir les savants. Le prophète a.s.w. a informé que la présence des savants est un bien. Car tant que les savants sont présents, les gens sont en sécurité, sont apaisés et calmes, et sont en sécurité quant à leur religion. Par contre, si les savants disparaissent, les calamités apparaissent, venant des plus ignorants des gens. » Et ce même s'ils ont des hauts diplômes, s'ils ne sont pas armés de la science et de la législation islamique, ils égarent les gens. Ils pervertissent là où ils veulent réformer. En se basant là-dessus, nous disons qu'il n'est pas permis aux musulmans de dénigrer leurs savants et qu'ils les traitent comme des ignorants ou qu'ils les affublent de caractéristiques indécentes. Comme par exemple de dire « Ceux-là sont les savants de la religion, rien d'autre. Hein » Qu'est-ce que tu veux qu'ils soient savants de quoi hein? Ou de dire « Ceux-là ne connaissent pas la réalité, la situation des gens. » Cheikh Al-Albani, il a une très très belle réponse là-dessus. Hein? Il a dit, peut-être que les ulama ne connaissent pas la situation d'une chose, mais ils connaissent le hukm de cette situation-là. Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Silsila huda wa nour. Ceux-là ne connaissent pas la réalité, la situation des gens. Et ceux-là sont les savants des monstres, des menstrues et des lochis. Gloire à Allah, Cheikh dit subhanallah. Le prophète alayhi salam a informé que les savants sont les héritiers des prophètes. والطعن في الحامل طعن في المحمول. والطعن في الراوي طعن في المروي. والطعن في الناقل طعن في المنقول. Hein? Si tu critiques le rapporteur, tu critiques ce qui est rapporté. C'est pour ça que hein, c'est ce que dit le ulama, par exemple le Shia quand il critique le Sahaba. Qu'est-ce qu'ils en ont hein? Après quoi ils en ont en fait les chiens? La sunna du prophète alayhi sallam. Quand les ulama, les al-bid'a al-ahwa, parmi les tekfirin, parmi Hizb Tahrir, parmi Jama'at Tabligh, parmi l'Ikhwan al-Muflisoun, parmi al-Rawafid, parmi al-Mu'tazila, al-Jahmiya, et parmi encore beaucoup d'autres sectes que j'oublie, hein? Quand il critique les ulama, il critique en fait quoi? C'est pas sa personne en tant que telle. Il critique la science que porte ce alim-là. Hein, pourquoi les ulama, ces gens-là, les al-bid'a al-ahwa, ils n'aiment pas Cheikh Rabi' par exemple? C'est parce que son nom c'est Cheikh Rabi'. Rabi' ben Hadi al-Madkhali, c'est juste pour ça. Hein? C'est parce que Cheikh Rabi' c'est le porteur de l'étendard de la science du jarh al-ta'dil, qu'il le veuille ou non. Et comme l'a dit Cheikh Maqbil, il a dit هؤلاء لا يحبون الجرح التعديل لأنهم مجروحون. Ils n'aiment pas le jarh al-ta'dil. Pourquoi? Parce qu'ils sont majrouhoun, ils sont critiqués eux-mêmes. Mais eux, ils peuvent critiquer. Sans dawabit shar'iyya, bien sûr. Cheikh, il continue en disant ceux-là sont les savants de la religion. Non, donc il citait ce qu'ils disent les gens, puis il a dit gloire à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les savants sont les héritiers des prophètes. Alayhi salatu wa sallam. Les savants de la religion sont les héritiers des prophètes. Alayhi salatu wa sallam. Et pas les savants de la médecine, ni de la chimie, ni de la physique, ni des mathématiques, ni de l'ingénierie, ni de la philosophie. Les héritiers des prophètes, alayhi salatu wa sallam, sont ceux qui portent l'héritage de la prophétie. Ce sont les savants de la religion. Le savant de la religion, de l'islam, est celui qui dit aux gens, Allah a dit. Son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Il ne se base pas sur les histoires et les récits dans les magazines et les journaux, en avançant comme preuve qu'il est quelqu'un qui comprend la situation de la communauté et qu'il se doit d'éclaircir les gens à ce sujet. Ils prétendent que ces gens-là sont fuqaha al-waqi', hein, ceux qui comprennent le waqi', la situation et la réalité, l'actualité. Ceux qui comprennent la réalité, l'actualité. Hein? Troisième hadith, maintenant qui cite sur le Cheikh Hafidahullah Ta'ala sur la présence de la science et des gens de science. Hadith Abi Darda, radiallahu anhu, wa huwa fi sunani Abi Dawuda, wa ghirihi fihi yaqulu alayhi salatu wa salam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه الخصال تبين غاية البيان فضل العلم وفضل العلماء. فيا أيها المسلمون لا تحقروا مجالس العلم وسارعوا إليها، بارك الله فيكم، وتزودوا منها، فإن العلم ونعلي به علم الشريعة وسبيل الهداية إلى دين الله. فكلما تفقهت في دين الله ازدادت خشيتك لله سبحانه وتعالى. وللعلم آداب، أو لطالب العلم آداب، نذكر بعضها. Cheikh, il dit donc, troisième hadith sur la préscience de la science et des gens de science. Et je m'excuse que je m'assoie comme ça, c'est parce que j'ai mal à la jambe, c'est pas un adab, voilà, que je m'excuse, c'est une daroura. Le troisième hadith, le hadith d'Abu Darda, qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud et d'autres, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prend un chemin pour demander la science, Allah lui facilite par cela un chemin parmi les chemins du paradis. Et les anges déposent leurs ailes en signe d'agrément du demandeur de science. Quand on avait fait le charah de Cheikh al-Mahsi al-Abbad dans la Dora, on avait dit quoi ? Tawadu'an wa tawqiran li talib al-ilm. Par modestie et respect envers le chercheur de science. Et il demande pardon, et demande pardon pour le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et même le poisson dans l'eau. Et la préscience du savant sur l'adorateur est similaire à la préscience de la lune lorsqu'elle est pleine sur les étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ne laissent ni dirham ni dinar en héritage, mais ils laissent en héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une grande portion. Cheikh Obed al-Jabiri, hafidhahullah, il dit, ces caractéristiques clarifient au plus haut point. Ça, c'est pour celui qui veut la clarification. Hein? La préscience de la religion et la préscience des savants. Cheikh, il dit, oh, vous les musulmans, ne méprisez pas, ne dédaignez pas les cercles de science. Et hâtez-vous à y assister. Wasari'u. Qu'Allah vous bénisse. Et augmentez, multipliez votre présence dans ces cercles. Car la science, nous entendons par cela la science de la religion, est la voie de la guidance vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on le dit tout le temps ça. الله يدل القرآن سورة الدريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. On connaît tous ces versets. Comment on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? On sait que الغاية التي خلقنا من أجلها عبادة الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il faut adorer Allah عز وجل uniquement. Et qu'Allah nous a créé pour cela. C'est le but pour lequel Allah nous a créé. Comment est-ce qu'on va l'adorer si on ne sait pas comment l'adorer? Comme l'avait dit Cheikh Mohammed l'Imam dans la Dora qu'on avait fait en anglais, hein, j'avais rapporté une faïda de Cheikh Mohammed l'Imam, il avait dit, parce que si tu adores Allah avec ignorance, il se peut que tu fasses rentrer dans ton adoration, hein, ou dans ton adoration, ce qui ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh, il dit, qu'Allah vous bénisse et augmentez, multipliez votre présence dans ces cercles. Il n'a pas dit diminuer, il a dit multiplier, augmenter. Car la science, nous entendons par cela la science de la religion et la voie de la guidance vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant tu apprends la religion d'Allah, autant ta crainte d'Allah augmente. Allah le dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Regardez le ta'bir qur'ani. Cheikh Al-Uthaymeen dit le khashiya, c'est différent de le khouf. C'est le khouf le mubni ala l'ilm. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craigne d'une crainte basée sur la science que les savants. La science ou l'étudiant en science a des bien-sciences qu'il se doit de respecter. Et croyez-moi, on a tous besoin de ces bien-sciences-là, parce que des fois, on ne sait même pas comment s'asseoir dans les jalassés de l'ilm. On ne sait même pas comment s'asseoir. Je sais que je ne suis pas un chir, jamais prétendu être un chir, mais il y a une manière de s'asseoir. Hein? Même moi, vis-à-vis de vous, j'ai une manière de m'asseoir. Il y a un adab à respecter envers les étudiants, comme il y a un adab de l'étudiant envers celui qui est en face de lui. Hein? Évidemment, l'asl, c'est le chouyur, bien sûr. D'accord ? Eh bien, la science ou l'étudiant en science a des bien-sciences qu'il se doit de respecter. Nous en citerons quelques-unes, Inch'Allah. On va en faire quatre aujourd'hui, on fera le reste plus tard, Inch'Allah. Comme ça, ce ne sera pas trop long pour vous, inshallah ta'ala.
الأدب الأول الإخلاص تخلص لله عز وجل طلب العلم وتحتسب الأجر عنده الثاني الصبر والمصابرة لا تمل ولا تدجر أو نعم اصبر عفوا تحمل المشقة وما تجده من جهد ثالثا العمل اعمل بما علمت من علمك فكلما عملت بما علمت ثبت العلم في قلبك رابعا ابذل ما عندك من العلم ولو أن تعلم إنسانا الوضوء الصحيح أو الصلاة الصحيحة ولا تقل ليس عندي من العلم شيء فها أنت قد أديت وبذلت ما في وسعك
Quatre premières adabs, bien séance dans la science, dans l'acquisition de la science. Premier adab, évidemment, c'est la sincérité. Que tu sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ta demande de la science et que tu espères sa récompense subhanahu wa ta'ala. Deuxième adab, deuxième bienséance, la patience et l'endurance. Que tu ne lasses pas, ne faillis pas, patiente, supporte la difficulté. Patience, endurance. Sabr al-musabara. Troisième, la mise en pratique. Applique ce que tu as appris, car autant tu appliques ce que tu as appris, autant la science s'affermit dans ton cœur.
Certains ulama, ils ont appelé ça zakat l'ilm. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit, je n'ai jamais écrit un hadith sans l'avoir appliqué au moins une fois pour que ce ne soit pas une hujja alayya, pour que ce ne soit pas une preuve contre moi. Allahu Akbar. Combien de hadiths on entend? Combien d'ayats on entend? Combien d'ahkam on entend? Hein? Et qu'est-ce qu'on pratique? Sallallahu alayhi wa sallam.
Quatrième point, partage ce que tu as, ce que tu détiens comme science, et c'est même si tu apprends à quelqu'un à faire les ablutions correctement, ou à prier correctement. Ne dis pas, je ne détiens rien comme science. Tu auras partagé alors et tu te seras acquitté de ce dont tu es capable. Et ça, c'est une choubha que beaucoup de frères raison, ya ikhwa. Hein? Et peut-être des sœurs aussi. Si Shaitan il vient chez toi par une porte, il te dit, non, mais tu connais rien, laisse la da'wa à ces gens, etc. Là, c'est khata. Ça, c'est une erreur, ya ikhwa. Tu sais faire le wudu, t'es sûr. Va prendre des bêtises aux gens et des erreurs aux gens. Hein? Tu es sûr de faire le wudu proprement, correctement, parce que tu l'as appris. Eh bien, apprends quelqu'un à faire le wudu. S'il ne sait pas faire le wudu, apprends-lui à prier. Tu sais, connais Mis'ala, apprends-lui la Mis'ala. Rappelle le cheikh, qu'est-ce qu'il a cité le hadith? Hadith Salama. Plutôt, c'est le hadith d'Abi Salama. Il a entendu un hadith que le prophète s'est mis à citer sur le minbar, que celui qui a une mosiba, qu'il dise Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, il a akhir le hadith, ou il a akhir le dua. Hein? Et qu'est-ce que Abu Salama il a fait? Radiallahu anhu wa arda. Il est rentré et il a appris le hadith à son épouse. Allahu Akbar. Hein? Il y a de la sunna. Apprends un hadith à ton épouse. Qu'on est censé aimer nos épouses. On est censé aimer ce qu'il y a de plus beau et de meilleur pour elles. Cheikh Abdel Razak Abel a dit une super parole. Il a dit quoi? Il a dit, la plus belle des choses que tu peux offrir, c'est la sunna. Les salaf, ils s'offraient des hadiths. Regardez, fahm al-din. Tu connais le Mis'ala? Et vous connaissez l'histoire d'Oum Salama pour terminer. Cheikh, il ne l'avait pas dit l'autre jour, mais qu'est-ce qui s'est passé à qu'est-ce qu'elle a eu, Oum Salama? Je sais pas, vas-y, continue. Ça, ce sujet-là, je l'ai vu en troisième année en primaire ici avec les petits-enfants à l'école. Dans Doha. Son mari est parti à Médine et elle est restée à la Mecque, seule avec son fils. Pendant un an, je crois que c'est son fils. Et je crois qu'un homme de la Mecque l'a accompagné à Médine, au chameau, quoi. Il n'a même pas laissé la parole jusqu'à Médine. C'est bien ce que vous dites, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans l'histoire. Revenez à la chose que je dis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son enfant, oui, vous êtes sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sûr que c'est elle? Tu parles pas d'Abu Talha, toi? Et c'est son fils à elle ou son fils à lui? Qu'est-ce que vous dites, les frères? Mais où les frères? Qu'est-ce que... Personne? Ils ne font pas deux histoires?
Après, je crois que la fille du mari et l'autre tribu de la fille qui partage le fils, c'est bien qu'en se partageant, ils
C'est pas. Il y a beaucoup de doutes dans tout ça. Le riwaya, il n'y a pas, pas trop de doutes là dans le riwaya. Ben, un devoir pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Une recherche, et regarde si c'est la même histoire que tu dis toi. Et pour revenir à ce que j'ai dit par rapport à Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Faites un bahth à ce niveau-là. C'est quoi? C'est Salama, par rapport au hadith que j'ai dit, et c'est quoi l'histoire d'Umm Salama radiallahu anhu arda avec Abu Salama? Et est-ce que c'est la même histoire que le frère a rapporté ou pas? Avec Abu Talha. Moi, je dis rien. On laisse comme ça en suspens. Ça va peut-être motiver les gens à venir la semaine prochaine. Ah oui, mais il n'y a pas cours la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que je pars en voyage, Inch'Allah, donc il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours. Samedi, je vais voir, mais on laisse en suspens pour samedi. Mais je pense pas, voilà, à la coup des hal. Mardi, il n'y a pas cours, Inch'Allah. Et samedi d'après, on verra aussi, Inch'Allah. Donc, sûr et certain, mardi prochain, Inch'Allah, il n'y a pas cours. Pour les frères qui sont ici, on se tient au courant. Et pour les gens qui sont sur Paltol, qui se tiennent au courant via notre site, le frère mettra les informations nécessaires, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.